Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'avoir choisi Radio Kapi pour vous informer. L'actualité reste dominée par l'épidémie des monkeypox qui continue de faire rage en République démocratique du Congo. 32 cas, dont un décès, sont signalés dans la province du Kwango, selon les coordonnateurs du programme élargi des vaccinations Kwango. Pas de circulation ce matin entre Goma et Niragongo à cause du meurtre des civils, dont un motard hier vendredi. Des jeunes en colère ont barricadé la route pour exprimer leur désolation face à ces énièmes drames qu'ils attribuent aux forces de sécurité du coin. L'invité de ce midi est la coordonnatrice du sous-cluster des violences basées sur les genres à l'UNFPA en Ituri. Brigitte Omari dresse un tableau sombre de ces phénomènes dans la province de l'Ituri, notamment dans des camps de déplacés. Bonjour à toutes et à tous. Ce journal part de la province du Congo central qui enregistre 32 cas confirmés des monkeypox, dont un décès depuis le début de l'année. Au moins 6 zones de santé sont touchées sur les 14 que compte la province et la zone de Kenge est la plus affectée avec 13 cas. Les contacts physiques avec les personnes atteintes et les animaux morts sont à la base de la propagation de cette maladie, selon les coordonnateurs du programme élargi des vaccinations PEV Kwango qui livre l'information. Dr Léon Makambu plaide pour un appui financier et logistique pour dénicher les cas qui traînent dans la communauté. On l'écoute.
La province, à travers la surveillance épidémiologique, à partir de la base jusqu'au niveau de la DPS, nous avons déjà notifié 32 cas de MPOX et un décès. À la zone de santé de Kenge, qui vient en tête avec 13 cas, et le décès a été constaté dans la zone de santé de Pandi. Il y a 6 zones qui notifient et les restes des zones sont silencieuses. Il y a la zone de santé de Kenge, la zone de santé de Kitenda, la zone de santé de Mwelalembwe, de Kasongolunda, de Panzi et de Boko. Ce sont les 6 zones de santé qui notifient régulièrement. La maladie est en train d'être notifiée dans la province. Elle évolue de façon crescendo. La prise en charge, elle est locale. Sans appui, nous sommes en train de nous baser sur les signes cliniques que le malade présente. Mais ça demande un appui consistant pour une investigation régulière et permanente afin surtout de booster les zones de santé qui sont silencieuses.
Entre-temps, à Ituri, 6 cas suspects de monkeypox sont notifiés dans des zones de santé dans la province. Dans une communication faite à la presse locale vendredi, le médecin-chef de la division provinciale de la santé, le docteur Michel Lola Loai, indique que 2 cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Bounia, 2 autres à Mambasa Centre et 1 à Nyanya. Le dernier cas a été signalé jeudi à Tchomia sur les littorales du lac Albert. Il précise que sur les 5 échantillons déjà expédiés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa, les 2 de Bounia ont été déclarés négatifs et pour ceux de Mambasa et Nyanya, les résultats ne sont pas encore disponibles. Le docteur Michel Lola rassure que tous ces cas notifiés sont pris en charge cliniquement et aucun décès n'est enregistré jusque-là. Dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, l'hôpital général de référence de Kamango éprouve des difficultés majeures depuis plus de 3 semaines. L'origine du problème est un coup de tonnerre qui a incendié les blocs opératoires endommageant gravement les systèmes d'électrification de l'hôpital. Cette catastrophe a plongé l'hôpital dans une situation critique, rendant les soins aux malades extrêmement difficiles. Junior Ngozi, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kamango, appelle à une aide urgente. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Le service de néonatologie est non fonctionnel. Nos couveuses, nos tables chauffantes, puisque leur utilisation dépend du courant qui doit être permanent et stable. Depuis cette période-là, les 8 cas qu'on a enregistrés, on a pu stabiliser 3 avec des techniques rudimentaires et 2 sont encore en difficulté jusqu'à présent. Il y a de l'imagerie qui n'est plus fonctionnelle. Des fois, nous sommes tentés d'agir sans avoir une précision par rapport à cet examen des diagnostic. Et même pour les patients, lorsque c'est une extrême nécessité, imaginez l'hôpital le plus proche de notre zone, ça doit être Oicha ou Biebeni Mutwanga, dont la voie de sortie n'est pas facile. Pour la chirurgie, les blocs restent toujours fermés et nous nous occupons principalement des urgences. Un patient qui devrait être sous oxygène au-delà de 12 heures, peut-être au bout de 2-3 heures seulement, la fonctionnalité du groupe électrogène pose problème. En soi, l'hôpital est tellement affecté. Nous continuons à pousser les cris d'alarme pour que les hommes de bonne volonté puissent penser à cette population.
Ici à Kinshasa, pour lutter contre les inondations, le gouverneur a lancé l'opération d'écurage des rivières de la ville. C'était hier vendredi à la rivière Kalamu au port d'Imbi, dans la commune de la Gombe. Selon Daniel Bumba, qui appelle les Kinois à ne pas jeter les immondices dans les rivières, cette activité s'inscrit dans son programme dénommé Kin Ezobonga. Daniel Bumba est au micro d'Étienne Lissumbu.
L'opération coup de poing nous a permis par un de nos partenaires qui est justement l'OVD, un organe technique à notre disposition pour nous permettre de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer quand même cet émissaire pour pouvoir créer le vril de cette rivière, afin de permettre de faciliter les opérations d'écurage qui se font en amont. Donc nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura de pluies torrentielles. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats. Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ces Kinshasa-là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est zéro mort, c'est zéro inondation à travers ces opérations. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça dans la ville. Et à travers cette dragline, nous allons curer partout. Nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première. Ils vont commencer par d'abord racler. Et après, ils vont tirer le sable du lit. Et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation.
Au Nord Kivu, un mouvement de colère de la population empêche depuis ce samedi matin la circulation entre la ville de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo. La principale voie menant vers Munigi est jonchée de pierres et autres barricades rendant impossible toute circulation. Les manifestants, principalement des jeunes de Nyiragongo, dénoncent les meurtres dans la soirée d'hier vendredi des deux personnes au village Buhombo en groupement de Munigi. Ces décès sont selon eux attribués aux éléments des forces de sécurité qui traquent les conducteurs des taxis-motos au-delà des 18 heures. C'est en tentant de tirer sur un motard qui s'échappait que les balles ont atteint des civils innocents. Tout en décriant ces bavures qui surviennent presque au quotidien, la société civile de Nyiragongo demande au gouverneur du Nord Kivu de tirer les conséquences causées par cette mesure. On écoute les propos de Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile de Nyiragongo, un extrait choisi par Chris Mukand.
La fois passée, c'était au village Turunga où les gens sont morts à cause toujours de cette fameuse traque de motards au-delà des 18 heures. Et hier, c'était au niveau de Bugamba où un motard aussi a reçu des balles. Et voilà, aujourd'hui encore, deux personnes viennent de mourir dans cette toujours opération d'interdisant les motards de circuler avec leur moto au-delà des 18 heures. Que tous ces motards-là qui s'abstiennent à obtempérer à la décision du gouverneur de province, leur interdisant de circuler au-delà des 18 heures, qu'ils comprennent que ce sont leurs vies qu'ils mettent maintenant en danger, car non seulement qu'à 18 heures, il y a des militaires et des policiers qui les pourchassent, mais voilà qu'ils sont en train d'être tués. Et donc, que chaque motard, une fois 17 heures qu'il travaille vers chez lui, et pour qu'à 18 heures, que le motard soit déjà à son domicile. Sinon, comme ça, ils s'exposent et ils mettent en danger leur vie et la vie de leurs compatriotes. Mais que le gouverneur puisse franchement revoir sa décision, car ça ne résout rien sur les plans sécuritaires. Au contraire, ça empire la situation sécuritaire dans le territoire de Nyiragongo et dans la ville de Goma.
Les porte-parole du gouverneur militaire n'a pas encore réagi à la préoccupation que nous lui avons soumise à ce sujet. Nous venons de l'apprendre, les forces de l'ordre s'activent à l'instant à dégager les barricades sur la route Goma-Munigi alors que la tension baisse progressivement dans cette partie. Direction la province de la Tchopo, où le conflit Mbole-Lengola est encore loin de se terminer. Un cas de meurtre s'est produit jeudi dernier dans la soirée à 25 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo. De nombreuses autres personnes blessées sont signalées. Ce drame a provoqué un mouvement des populations vers Yakusu en direction de Kisangani. Quelles sont les circonstances de ces cas de meurtre? Les explications avec Jacques Mukonkole.
Des informations rapportées par la société civile locale indiquent que l'incident s'est produit vers 19h à Yalisombo, une localité de la commune urbano-rurale de Lubunga. La victime, dénommée Dimanche, et un de ses amis s'apprêtaient à regagner le village au moment où ils ont été surpris par des assaillants dans la forêt. L'un a réussi à se sauver, tandis que Dimanche a été capturé avant d'être exécuté tragiquement. Beaucoup d'autres personnes grièvement blessées sont signalées dans ce village, pris d'assaut par de nombreux assaillants. Le président de la société civile Saouti Alubunga, prince héritier Isomela, demande une fois de plus aux autorités d'imposer la paix dans ces milieux.
Les autorités ont tout intérêt de s'impliquer très rapidement pour que la paix durable s'impose dans la commune de Lubunga, dans la ville de Kisangani et dans la province de la Tchopo.
Hier, les autorités ont dépêché une équipe mixte de la police et des FRDC pour maintenir l'ordre public. Rappelons que le conflit foncier est à l'origine de cette crise. Qui dure depuis plus d'une année. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous sans plus tarder en province du Tanganyika où les HCR annoncent la fermeture du site des déplacés Kikumbe situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Kalemie. Dans une conférence de presse ce vendredi à Kalemie, les HCR précisent que cette activité entre dans le cadre du programme d'appui aux solutions durables pour les personnes déplacées internes. Des précisions avec Paulin Munanga.
La pacification et la sécurisation de la zone ainsi que les désirs volontaires de plusieurs déplacés de retourner dans leur milieu d'origine ou d'aller vivre ailleurs sont les raisons qui expliquent la fermeture du camp des déplacés de Kikumbe. L'associé à la protection à base communautaire OHCR sous délégation de Kalemie indique que plus de 1200 ménages sont identifiés sur le site. 1063 ménages qui ont désiré retourner vont recevoir du cash pour leur relocalisation. Didier Bakajika souligne que 213 ménages qui ont choisi de rester sur place pour l'intégration locale vont bénéficier d'un kit abri. Signalons que le site des déplacés de Kikumbe a été installé en 2017, à l'époque où il y a eu intensification du conflit Twabantu. Les déplacés proviennent de Kalemie et des différents territoires de la province. Et depuis 2018, le HCR a déjà fermé 8 sites de déplacés dans la province du Tanganyika, précise Rose Kalongo, point focal au HCR Kalemie qui coordonne les camps des déplacés. Précisons que la fermeture officielle du camp des déplacés de Kikumbe est prévu la semaine prochaine. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Toute autre nouvelle, à Matadi, au Congo central, les petits commerçants qui vendent des objets classiques ont du mal à écouler leurs marchandises. La cause, selon eux, c'est la vente en détail par les grossistes au détriment des petits commerçants en sapant les dispositions légales. Pour remédier à cette situation, plusieurs détaillants rencontrés ce vendredi dans les différents lieux des négoces des Matadi demandent au gouvernement provincial de réglementer les commerces en gros et en détail en signant un arrêté en cette matière. Les points avec Nana Pluriche Mambou.
Du marché Mvodou au marché d'Amar, les vendeurs des objets classiques ont les mêmes doléances. Pas de vente, car les acheteurs fréquentent plus les grands magasins des grossistes où les articles tels que les cahiers, les lattes et autres ardoises sont vendus aussi en détail en violation du décret loi du 11 octobre 2021 interdisant les commerçants étrangers d'exercer les petits commerces. Liliane Ndouzi, vendeuse devant l'hôtel Fortune en ville basse, les témoigne.
C'est seulement Betesco qui respecte cette disposition en vendant en gros et en demi-gros. Mais d'autres expatriés vendent en détail des cahiers et des lattes dans leurs magasins.
Le chef de division provinciale de l'économie qui a fait la ronde de ces grands magasins dit avoir fait le même constat. Corneille Moukini.
Nous avons tiré les oreilles des opérateurs économiques. Celui qu'on trouvera sera sanctionné sévèrement par la loi.
Et pourtant, pour remédier à ce manque à gagner dont sont victimes les petits commerçants nationaux, en 2023, le ministère provincial de l'économie avait initié des rencontres avec la Fédération des entreprises du Congo et la Corporation des petites et moyennes entreprises où a été vulgarisé et distribué les textes de la loi réglementant les commerces en RDC. Mais jusqu'à présent, ces grossistes ne s'y conforment toujours pas. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis, dans la province du Kasaï oriental, c'est ce samedi que s'ouvre à l'hôtel Métropole de Mbujimayi le premier forum économique sino-congolais sur les mines. Ce rendez-vous économique est organisé par la société minière des Bakwanga Miba, un forum qui s'inscrit dans le cadre d'attirer les investisseurs internationaux pour les opportunités d'affaires et d'investissement dans les domaines miniers, de l'énergie et de l'agriculture. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 60 investisseurs chinois, un grand nombre d'opérateurs économiques congolais, quelques experts du secteur des mines, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures qui participent à ce premier forum économique. 5 gouverneurs de provinces issus du Grand Kasaï vont présenter aux participants les potentialités susceptibles d'être exploitées dans leurs entités administratives. L'ambassadeur de Chine en RDC est à cet effet attendu ce samedi à Mbujimayi. Il a été précédé dans la province par le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo ainsi que de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshiela Kamba. Rappelons qu'il y a près d'un mois, la société minière de Bakwanga, organisatrice de ce forum, s'est dotée des outils de production pour la relance de ses activités minières. La MIBA compte près de 13 à 14 massifs kimberlitiques sur lesquels les sondages des teneurs et des structures ont été effectués par le centre Géostat. Malgré cela, la société attend toujours des capitaux frais évalués à plus de 450 millions de dollars pour sa relance effective d'après le plan élaboré l'année dernière par le COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État en collaboration avec le conseil présidentiel de veille stratégique et le conseil d'administration de la MIBA. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Soudan est actuellement confronté à une grave épidémie de choléra qui a déjà infecté des centaines de personnes selon les autorités sanitaires. Au début de cette semaine, environ 20 personnes avaient déjà succombé à la maladie. Le choléra qui provoque une diarrhée sévère pouvant entraîner une déshydratation mortelle représente une menace sérieuse pour la population.
L'invité.
Plusieurs cas de violences basées sur les genres à la suite des atrocités des groupes armés sont enregistrés en Ituri. Au premier semestre de l'année en cours, au moins 6000 victimes ont bénéficié de l'accompagnement des organisations qui œuvrent dans ces secteurs. D'après les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, les territoires de Djougou est la zone la plus touchée en raison de la vulnérabilité des populations en déplacement. Pour en parler, nous recevons Brigitte Omari, coordonnatrice du sous-cluster des violences basées sur les genres à UNFPA en Ituri. Elle s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Madame Brigitte Omari, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour commencer, c'est quoi les violences basées sur les genres?
Merci. La violence basée sur les genres, c'est un terme générique qui constitue un acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les différences sociales attribuées entre les hommes et les femmes.
Alors, quel état des lieux dressez-vous du cas des violences basées sur les genres répertoriées dans la province de l'Ituri à ces premiers semestres de l'année 2024?
Je pourrais parler juste des tendances par rapport à la collecte que nous sommes en train de réaliser avec les acteurs membres du sous-cluster VBG en Ituri. Les tendances démontrent qu'on connaît une recrudescence de ces cas dans la province de l'Ituri et avec un accent particulier dans les territoires de Djougou, Maagi, Irumu et aussi Mambasa. On est déjà, selon ces tendances, au-delà des 6000 cas pour le premier semestre, ce qui n'est pas vraiment minimisable.
Quelles sont les zones les plus touchées par ces abus?
Bon, je parlais plus de Djougou parce que il y a pour le moment beaucoup de déplacements des communautés suite aux atrocités qu'il y a là entre les conflits et les groupes armés. Et au-delà de ça, dans les communautés d'accueil, il y a vraiment une forte promiscuité. Il y a aussi le faible moyen de survie, ce qui les laisse développer des mécanismes illégaux de survie, tels que les sexes et des survies. Tous ces aspects-là font en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas de VBG. Nous voyons aussi même dans les sites des déplacés tous les aspects nécessaires pour qu'on ait un cadre protecteur ne sont pas réunis dans tous les sites. Alors, ça expose aussi les femmes, le fait qu'il n'y ait pas assez de lumière pour eux, qu'il n'y ait pas de toilettes bien construites, telles qu'ils pensaient vivre.
Alors, comment votre organisation compte contribuer dans l'éradication de ces fléaux qui prend de l'ampleur dans la province de l'Ituri?
Bon, UNFPA travaille sérieusement sur la question. Nous sommes en train de renforcer de plus en plus les capacités des acteurs à pouvoir dresser cette question des violences basées sur les genres. Nous mettons à disposition les outils de collecte des données à jour, notamment les circuits de référencement, qui reprend tous les services disponibles auprès desquels les survivantes pourraient se rendre pour bénéficier de l'aide. Au-delà de ça, nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé en renforçant aussi les capacités des prestataires sanitaires et en mettant à leur disposition les kits post-viol pour la prise en charge des cas. Et sans oublier l'aspect très important aussi de la prévention, la sensibilisation à tous les niveaux. Et pour le moment, nous sommes en train de mettre en œuvre des grands projets dans le secteur de l'éducation et aussi dans le secteur de la santé où nous luttons contre les abus et exploitation sexuelle dans ces milieux-là, avec le financement de la Banque mondiale.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la lutte contre les violences basées sur les genres dans les communautés affectées?
Bon, les difficultés sont énormes, comme je vous ai dit. Le premier défi que j'ai pu évoquer, c'est le financement minime pour le moment qu'on a pour les activités tant de prévention que de réponse aux violences basées sur les genres. Cela est observé à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agences jusqu'au niveau des organisations locales. Et c'est une situation qui ne nous permettra pas de pouvoir couvrir totalement la zone, bien que les besoins soient identifiés ça et là.
Comment faites-vous pour aller rencontrer les communautés affectées par les violences basées sur les genres dans les zones qui sont contrôlées par les groupes armés?
Dans notre rôle de coordination, un travail de titan a été abattu. Nous avons eu des descentes dans les territoires et où la coordination a mis en place le sous-groupe de travail VBG. Donc, au travers les organisations locales et nationales qui sont basées dans ces coins, on les a constitués en sous-groupes de travail et qui interagissent avec nous à temps réel. On a pris aussi le temps de former les collides qui sont là-bas pour pouvoir orienter les autres par rapport au travail qu'ils doivent abattre dans la communauté.
Madame Brigitte Omari, merci.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa. Alain Irung Mochenge l'a préparé pour vous et Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive.